Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
Interview. L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi, Jean-Claude Rochose qui, sous la casquette du président de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux du département de la Drôme, est venu à la radio faire le point sur ce sujet. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, bonjour.
Alors peut-être tu vas sûrement nous faire un point sur ces cimetières familiaux, mais nous rappeler d'abord quel est leur principal intérêt et pourquoi tu te passionnes pour cette question.
C'est une question en fait de sauvegarde du patrimoine. Les cimetières familiaux sont anciens puisqu'ils sont liés à la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. À cette époque, donc, les protestants avaient interdiction d'être enterrés dans les cimetières catholiques, sauf s'ils se convertissaient. Donc, il y a eu un mouvement de résistance et ils se sont enterrés en fait chez eux, dans leur propriété. D'où l'origine de ces tout petits cimetières que l'on voit dispersés un peu dans tout le département de la Drôme et aussi ailleurs en France, qui sont menacés pour un nombre important de disparitions, parce qu'en fait ce sont des cimetières privés, entretenus par les familles, mais il arrive bien sûr que les familles n'aient pas de descendants. Donc à ce moment-là, le cimetière n'est plus entretenu, il tombe en ruine et peu à peu, il disparaît. Donc en 2012, avec 4 ou 5 DIWA, on s'est préoccupé de cette disparition et on a décidé de fonder une association de sauvegarde de ces petits cimetières qui n'est pas seulement pour le DIWA, mais pour l'ensemble du département de la Drôme. Il existe une autre association, créée cette fois-ci en 1997, qui s'occupe des cimetières familiaux des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Vendée. Donc le premier but qu'on s'est fixé, parce que ça n'a jamais été fait, c'est de faire l'inventaire précis, si possible exhaustif, de ces cimetières familiaux à partir d'une fiche descriptive qui les localise, qui indique s'ils sont entretenus ou pas entretenus, quelles sont les personnes qui sont enterrées, est-ce qu'il y a des arbres intéressants, est-ce qu'il y a des stèles, est-ce qu'il y a des dalles, est-ce qu'il y a des couronnes de perles. Pour à un moment, c'était la mode des couronnes de perles. Voilà, donc on a mis au point une fiche et cimetière par cimetière, on remplit cette fiche, on localise de façon précise le cimetière et on essaye d'avoir la fiche la plus précise, la plus complète possible. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que on essaye de se préoccuper de leur sauvegarde, c'est-à-dire comment faire quand le cimetière est en ruine. Voilà. Alors ça, on n'a pas encore tout à fait résolu le problème. On en a débroussaillé quelques-uns. On peut en entretenir d'autres. Une personne peut nous demander d'entretenir son cimetière. Bon, là, il y a une petite cotisation annuelle de 10 euros pour l'association, si on adhère à l'association. Et c'est assez important parce que ces cimetières sont un témoin de l'histoire du protestantisme français. C'est aussi un témoignage, disons, de tolérance, parce que, au fond, c'est inversement, c'est un symbole de l'intolérance. C'est l'intolérance de Louis XIV qui voulait interdire totalement le protestantisme en France, qui est à l'origine de cette création des cimetières familiaux. Et depuis, ils sont restés. On peut toujours avoir son cimetière familial, même en créer un dans sa propriété. Si on a un cimetière familial et qu'il est homologué, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle un accord hydrogéologique, on peut toujours être enterré dans son cimetière familial. Voilà, donc c'est une action de long terme, il faut être patient. Mais on a avancé, je dirais lentement, au niveau de la sauvegarde réelle de ces cimetières. Par contre, assez rapidement, en ce qui concerne les fiches descriptives, puisqu'on dépasse maintenant 200 fiches descriptives.
Donc 200 cimetières recensés, évalués, et voilà, dont vous avez identifié les occupants.
Voilà.
Alors, justement, j'aime bien les chiffres de temps en temps. Quand tu dis 200, c'est 200 sur combien, à ton avis, dans la Drôme ?
Probablement près de 700. Entre 600 et 700, c'est très difficile parce qu'il y a des cimetières qui sont très bien entretenus, d'autres qui sont mal entretenus, d'autres qui sont en ruine, envahis par la végétation, et d'autres qui ont disparu, carrément. On recense même les cimetières disparus si une vieille personne dans un village vous dit « Ah oui, mais là, il y avait monsieur un tel qui était enterré ». Il n'y a plus aucune trace, mais on note quand même sur une fiche, ici, a été enterrée cette personne-là.
Oui, j'allais te le demander, comment procèdes-tu dans cette quasi-enquête policière ? Comment fais-tu, à part des témoignages d'anciens ?
Il y a les témoignages d'anciens, il y a les cartes IGN qui indiquent par une toute petite croix s'il y a un cimetière familial, mais en général, elle ne répertorie que moins de 50% des cimetières sur une commune, et il y a obligatoirement une enquête sur le terrain. Il faut aller sur le terrain et puis regarder. Souvent, on repère les petits cimetières parce que c'est des petits enclos de 10 mètres sur 10 mètres avec un cyprès, des fois, hein, symbolique. Voilà. Donc, c'est, en fait, il faut aller sur le terrain pour repérer ce qui reste, dans certains cas, du cimetière. Dans certains cas, il ne reste qu'une couronne métallique, qu'une vague trace. Dans d'autres cas, au contraire, c'est des stèles, des dalles avec des noms gravés.
N'y a-t-il pas des annales dans les mairies ou qui spécifient qu'il y a effectivement un cimetière ?
Oui, il y a des documents dans les mairies parce que vers 1990, il fallait enregistrer ces cimetières et avoir ce qu'on appelle un accord hydrogéologique. Donc, un certain nombre de mairies, mais pas toutes, ont un dossier concernant cet accord hydrogéologique.
C'est-à-dire le fait que si on enterre quelqu'un, ça ne va pas polluer la nappe phréatique avec ses, le fait qu'il soit décomposé par la nature, par exemple.
Oui, aucun n'a été refusé. C'était un peu un excès de zèle d'un préfet.
Oh, mais quand même, on ne sait jamais s'il y avait un certain nombre de cadavres qui étaient juste au-dessus de la nappe phréatique qui était à l'origine de notre réseau.
Oui, il
n'y
en a pas, en fait. Y en a...
Ah bon ?
Oui, il n'y en a pas.
Bon, je vais cesser de m'inquiéter pour ce sujet. Mais tu me disais qu'il y avait 700, c'est ça, hein ?
C'est à peu probablement près... 700. Alors, ils ne sont pas dans tout le département de la Drôme, parce que une partie de la Drôme, en fait, est restée catholique. Par exemple, le Nord-Drôme, ou sur la vallée du Rhône, il y a beaucoup moins, très peu, de cimetières familiaux. Par contre, sur le Diois, l'ensemble du Diois, sur le pays de Bourdeaux, le pays de Dieulfi, la Charse, là, il y a beaucoup de cimetières familiaux. Donc, c'est un peu inégal. On a des communes comme Saint-Julien-en-Quin, comme Poyol, qui ont plus de 30 cimetières familiaux.
Poyol ?
Oui. D'autres qui n'en ont aucun. Aucun. Par exemple, donc Poyol, on a 29-30. Jonchère, qui touche Poyol, n'en a aucun, parce que Jonchère est resté catholique, alors que Poyol, au 19e siècle, était à 100% protestant. Pareil pour Valdrôme. Il y a des cimetières familiaux à Valdrôme.
Non mais ces protestants sont quand même étranges. Pourquoi ont-ils éprouvé le besoin de créer 29 cimetières à Poyol plutôt que d'en créer un d'importance collective ?
Eh bien, ça reste de la révocation de l'édit de Nantes. À la révocation de l'édit de Nantes, les protestants ne pouvaient que s'enterrer en secret chez eux.
Non mais j'ai bien compris.
Dans leur propriété. Il leur était impossible de créer un cimetière commun pour tous. C'était interdit. L'interdiction a duré jusqu'à la Révolution, jusqu'à l'édit de tolérance de Louis XVI en 1787 et après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789.
D'accord, donc c'est pour ça que plus il y avait de protestants, plus il y avait de cimetières dans la même commune.
Exactement. On a même encore quelques communes qui n'ont pas de cimetière communal, qui n'ont que des cimetières familiaux, de moins en moins. Maintenant, à l'origine, donc, c'était des cimetières protestants, hein. Mais maintenant, ils deviennent des cimetières familiaux, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages mixtes, hein, et que même des familles catholiques ont profité de cette tradition pour se créer dans leur propriété leur propre cimetière où il n'y a que des catholiques. Donc ça devient des cimetières familiaux.
D'autant qu'avec ces histoires de réforme du droit des cadavres, en fait, le droit des cadavres, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, apparemment, le bail accordé aux défunts dans les cimetières, c'est nettement raccourci, je ne me rappelle plus.
Alors, si pas pour les cimetières familiaux.
Non, pas pour les cimetières, mais en général. Peut être tentant, quand même, ouais. Sachant qu'on est viré au bout de je ne sais quelle décennie, de se faire enterrer chez soi, ouais. Sur ces terres où là, on est plutôt tranquille.
On est tranquille, on est chez soi.
Tant qu'on est chez soi, d'ailleurs, parce voilà. Qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Oui, oui, oui. Ah, mais attention, même si. Par exemple, vous avez un cimetière familial dans un champ, et puis le champ autour se vend, enfin, il change de propriétaire. Le nouveau propriétaire a l'interdiction totale de détruire le cimetière familial. Et ce cimetière, il doit y avoir toujours le droit d'accès.
Ça veut dire que, quel que soit le passage des biens entre des mains ou d'autres, les cimetières familiaux...
La famille reste propriétaire. Le problème, c'est quand la famille disparaît.
Et puis peut-être même, je ne sais pas quelle est la position de toutes les familles, mais est-ce qu'on consacre à ce point d'argent pour entretenir les tombes de ses ancêtres ? Je ne sais pas. Je sais pas
ça dépend des familles. Il y a des cimetières qui sont tout à fait entretenus, hein, régulièrement, à la Toussaint, bien sûr, hein, on approche de la Toussaint. C'est la période où on fleurit les cimetières, on les entretient. Et puis, il y a d'autres familles qui, en effet, ne les entretiennent plus. Quelquefois, ce sont les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui sont enterrés dans un cimetière familial. Mais ensuite, la famille a changé d'avis et elle enterre ses morts dans le cimetière communal. Et on oublie le petit cimetière familial des arrière-grands-parents. Voilà, ça peut se produire.
Vous êtes combien d'adhérents dans votre association ?
Il y a une soixantaine d'adhérents à l'association de sauvegarde des cimetières familiaux du département.
Et donc une soixantaine de personnes qui fouillent les communes et qui fouillent les cimetières et qui font du travail de repérage, etc.
Oui, mais bien sûr, c'est comme dans toutes les associations. Il y a des personnes qui sont très actives, d'autres qui simplement adhèrent parce qu'elles considèrent que c'est un patrimoine à sauvegarder. Donc vous avez la personne qui simplement adhère et puis d'autres personnes qui, elles, vont sur le terrain pour... faire l'inventaire des cimetières. Par exemple, c'est une seule personne, pratiquement, qui a fait l'inventaire et qui est en train de faire l'inventaire de tous les cimetières de familiaux de la vallée de Quin, qui sont plus de 80. Pour Poyol, c'est moi qui ai fait l'inventaire, il y en a une trentaine. Pour Boulc, c'est une autre personne. Boulc, Ravel et Ferrier, c'est encore une autre personne. Pour Bourdeau, ça sera encore d'autres personnes. On manque d'ailleurs... de personnes pour faire les inventaires sur Bourdeau, Dieulefi, Orpierre, enfin ces coins-là.
Avis aux amateurs. Est-ce que vos travaux ont rencontré de l'intérêt, un écho parmi nos concitoyens ?
Oui, parce que peu à peu, on sait qu'il existe une association de sauvegarde des cimetières familiaux. Donc les gens portent un nouveau regard un peu sur ces cimetières et puis se disent « Ah ben oui, tiens... c'est vrai, ils ont raison, il faut se préoccuper de leur sauvegarde. Moi-même, j'ai publié un article dans la revue Études Dromoises, numéro 52, sur les cimetières familiaux. Je prenais l'exemple de Poyol, mais c'est général. Il va paraître pour la Toussaint un article sur les cimetières familiaux d'une manière générale dans le journal Réforme. Voilà, donc il y a un intérêt, oui, qui prend pour ces petits cimetières, d'autant que dans un certain nombre de ces cimetières, il y a des personnalités qui sont enterrées. Il y a des anonymes, des fois il n'y a même plus aucun nom. Il y en a même qui ont gardé la tradition d'anonymat de ces cimetières. Donc le cimetière est bien entretenu, mais il n'y a aucune information. C'est la famille qui possède chez elle... la liste des personnes enterrées. Ça, c'est une tradition de l'anonymat qui existe dans certaines familles. Dans d'autres, c'est l'inverse. Au contraire, on met des plaques avec les noms soigneusement gravés. Et il y a des personnalités. Par exemple, à Bourdeau, vous avez, dans un cimetière familial de Bourdeau, Alexis Muston, qui a été pasteur de Bourdeau pendant plus de 30 ans, historien des Vaudois, excellent dessinateur, ami de George Sand, qui prenait le petit déjeuner avec Victor Hugo. Voilà, hein, une personnalité intéressante. Le pasteur le plus connu au XIXe siècle en France, comme Marc Bugner au XXe siècle. Hein. Et puis, vous avez, à Poyol, vous avez le député Archimbault, qui était député pendant plus de 30 ans, du Parti radical socialiste. Vous avez, à Lucandiois, Georges Saint-Bonnet, enterré dans un cimetière familial, qui a été un écrivain, auteur de romans policiers, également fondateur d'un mouvement religieux, décédé en 1963. Vous avez Adrien Gilouin, un poète sur Montmort. Voilà, il y a des personnalités comme ça que l'on retrouve. Marcel Legault, mathématicien, philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité chrétienne. Voilà.
Quand tu parles de quelqu'un qui serait décédé en 1963, ça veut dire que ces cimetières familiaux, originellement dédiés aux protestants, continuent à recevoir leur lot de personnes décédées ?
Bien sûr, bien sûr. Ils sont toujours utilisés, toujours.
Malgré la révocation de l'édit de Nantes ?
Ah bah oui, oui, oui. C'est la tradition reste, elle est acceptée au niveau national. Hein, parce qu'attention, bon, sur la Drôme, il y en a 700, ouais, peut-être, hein. Mais sur l'ensemble de la France, il y en a probablement plus de 15 000, qu'on appelle l'arc protestant, qui part de l'Isère, qui descend dans la Drôme, qui passe dans le sud de l'Ardèche, qui remonte sur la région toulousaine, puis qui remonte sur la Vendée, la Mayenne, la Sarthe. Voilà. Là, il peut y avoir des cimetières protestants, donc ils sont très nombreux, ces petits cimetières.
Il n'y a pas plus de législation que ça, à part ce...
L'accord hydrogéologique.
Moi, ça m'étonne. Pour un pays qui adore...
C'est une tradition.
Qui adore le fait qu'on ne voit qu'une tête...
Ouais, mais on laisse un peu les morts tranquilles. On va pas provoquer des histoires avec les cimetières. Voilà.
Oui, mais à l'époque où, justement, on se plaint qu'il y a beaucoup de surfaces agricoles qui disparaissent à droite à gauche, et là, on en alloue à
des pauvres
défunts.
Ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Alors, c'est vrai que le problème de la surface des cimetières, c'est surtout un problème urbain. Hein. En effet, pour des grandes métropoles comme Paris, se pose la question de la surface des cimetières. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'incinération, parce que ça prend moins de place. Mais pour des territoires ruraux, sincèrement, dans la Drôme, il y a encore beaucoup de place. Quand on voit le nombre de la surface des forêts, les champs incultes, etc., il y a encore beaucoup de place.
Non, mais je vois très bien le jardin, enfin c'est peut-être pas le seul d'ailleurs, mais je vois au moins un jardin familial à Barnave, il est en plein milieu d'un champ de clairette, hein, d'un
oui,
plan de Mussia.
Oui, oui.
Mais
oui.
Ça doit obliger, je suppose, le tracteur à faire des tours autour.
Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. Bon, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y en a quelques-uns qui ont disparu. Parce que c'était juste une toute petite inscription dans un champ. Et puis, bon, quelquefois, le tracteur, il a détruit le... Il y en a quelques-uns qui ont disparu. Mais d'autres sont soigneusement entretenus avec un muret, avec des portes en fer forgé, avec des dalles imposantes. Et ils seront toujours là, même dans 500 ans ou dans 1000 ans. Hein.
Tant qu'il y aura des familles qui se préoccuperont de leurs défunts.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous espérez avec cette étude, outre le fait de savoir où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous espériez que, justement, il y ait une collecte de fonds pour les entretenir, et ceux qui sont un petit peu misérables ?
Il y a en effet un problème de financement de travaux de rénovation. Bon, ça, on n'a pas encore résolu le problème, parce qu'il y en a qui sont en ruine. Mais c'est vraiment une ruine. C'est-à-dire que le mur est écroulé, la porte rouillée est bloquée. Donc là, ce sont des travaux qui sont plus importants. Bon, pour le moment, on n'a pas encore résolu le problème. On en est surtout, on met le paquet sur l'inventaire. On y arrivera peu à peu. On a le projet pour 2015, au minimum, de débroussailler un certain nombre d'entre eux, abandonnés depuis 50 ans ou plus. Et de façon à indiquer qu'une association se préoccupe de leur survie. On a également mis au point une petite plaque très très modeste, hein, d'environ 10 cm sur 5 cm, où c'est marqué cimetière familial sous la sauvegarde de l'association de sauvegarde des cimetières familiaux protestants. On met ces petites plaques sur les cimetières qui sont ruinés et que l'on veut essayer de sauvegarder.
Vous faites des appels aux dons. Est-ce que vous êtes d'intérêt général qui pourrait vous permettre de déduire une partie du montant des impôts des ménages?
Oui, mais là, on est une petite association créée en mai 2012.
Oui, mais est-ce que vous êtes d'intérêt général?
Non, on n'est pas d'intérêt général.
Ça pourrait décider certaines personnes à vous aider quand même.
Oui. Et puis, on a bien sûr aussi pour 2015 le projet de faire un site internet où les gens puissent avoir des renseignements.
Vous êtes une association dynamique, vos membres sont enthousiastes et frais et vaillants.
Oui, mais on est une association dynamique, on a des réunions, il y a un bureau qui se réunit régulièrement. On manque, comme pour toutes les associations, de personnes qui vont sur le terrain et qui font vraiment l'inventaire très précis à partir de fiches de tous les cimetières familiaux qui sont sur une commune. Moi, je viens de terminer l'inventaire sur la commune Les Prés. J'avais trouvé 11 cimetières familiaux. Et puis, une personne m'a écrite en disant « Ah, mais non, vous avez oublié le mien, il y en a 12. » Donc, on lui a envoyé la documentation. On a des communes où on n'a personne. Par exemple, il est probable que sur le rebord ouest du Vercors, du côté de Chabeuil, hein, dans ces coins-là, les petits villages qui sont dans ce coin-là, perchés, il est probable qu'il y en a qui ont des cimetières familiaux. On n'a personne de ce côté-là. Du côté sud de Cray, on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, j'en ai répertorié quelques-uns, donc il y en a. Hein. Du côté de Nyons, on manque d'informations. Voilà, c'est assez inégal. Il faut vraiment aller sur le terrain. Parce que, quelquefois, le cimetière est dans les broussailles. On ne voit que des broussailles, on ne voit même plus les croix, ni les dalles, ni les stèles.
Ou alors les noms sont complètement effacés. Et alors là, qu'est-ce que vous faites pour trouver les occupants?
Il faut demander aux personnes de la commune, aux vieilles personnes, qui est enterré là.
Parce que tout le monde ne se rappelle pas. Enfin, moi, personnellement, je ne me rappelle pas qui est enterré.
Bien sûr.
Donc eux, ils ont peut-être des petits carnets ou je ne sais pas.
Quelques familles ont des informations, mais pas toutes. Dans certains cas, l'information est perdue.
Hein. Et elle est perdue.
Ah oui, elle est perdue définitivement.
Pourtant, il n'y a pas un annuaire des décédés qui sont centralisés?
Ah ben, il y a bien sûr, à l'état civil, le document « Cette personne est décédée à telle date hein, ». Elle est née à telle date, elle est décédée à telle date, elle a été enterrée, mais il n'y a pas de document disant où cette personne a été enterrée. Donc on ne sait pas si elle est dans le cimetière communal ou si elle est dans un cimetière familial.
Voir si elle a été incinérée.
Et également si elle a été incinérée et si on a dispersé ses cendres dans la nature. Alors il ne reste plus rien. Ça c'est le tort, parce qu'il y a des gens qui préfèrent l'incinération. Mais si les cendres sont dispersées et si l'urne disparaît et est enterrée, il n'y a plus aucune trace.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, c'est un problème philosophique. Hein est-ce qu'on doit laisser une trace ou est-ce qu'on ne doit pas laisser de trace? Vous avez des personnes qui disent « je ne veux pas ». Ça arrive, hein. Je ne veux pas laisser de traces, je ne veux pas d'inscription, je ne veux rien, je veux être enterré sous mon pommier, je vous demande d'être enterré sous mon pommier que j'ai planté, un point c'est tout. Voilà, ça c'est une volonté que l'on peut très bien comprendre. Il y a d'autres personnes, il y a des personnalités, on peut quand même des fois un peu regretter que pour une personnalité qui a laissé des traces, par exemple, sous forme de poèmes, François Adrien Gilloin. Bon, c'est quand même bien qu'il y ait un cimetière familial avec entretenu avec la plaque Adrien Gilloin. Il y a aussi le cas des jeunes qui ont été tués à la guerre de 14-18. Hein. Dans certains cas, c'est le cas à Poyolles, La seule trace qui reste de ce jeune qui a été tué à 20 ans en 1918, c'est un petit cœur, voilà, avec le nom regretté de sa sœur, par exemple, 1918. Voilà, c'est tout ce qu'il reste de cette personne. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà, c'est peut-être souhaitable quand même. Voilà. Et puis, c'est le problème du passé. Que faut-il retenir du passé ? Bon, je pense que ces cimetières familiaux ont un intérêt historique, culturel, généalogique. La généalogie, ça aide pour les recherches généalogiques aussi. Hein. Il y a ce côté-là aussi.
Ça, j'entends bien. Ça peut être effectivement un excellent argument pour les gens qui cherchent effectivement à savoir d'où ils viennent. Néanmoins, là, je te rejoins sur un argument précédent. Qu'est-ce que, au bout d'un certain temps, quand même, de savoir que telle personne, de pouvoir se rendre sur la tombe de quelqu'un mort il y a un certain nombre d'années, ne m'apporte pas de frisson, en fait. C'est quelqu'un et d'étranger à ma famille. Enfin, je veux dire, peut-être pour des membres d'une certaine famille, de pouvoir s'incliner sur la tombe de leurs anciens. Ça, je comprends.
Ouais.
Maintenant, que d'un anonyme qui ne fait pas partie de ma famille, ça m'est légèrement égal en général.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Okay, et puis bon, le temps passe. Hein, le sable du temps fait qu'on oublie. Ouais. Si on devait se rappeler de tout ce qui s'est passé sur Terre depuis le début,
on
serait très lourd.
Ouais. Bien sûr. C'est moins vrai pour des personnalités. Hein, des chanteurs, des
hommes politiques,
des grands scientifiques, des hommes politiques. Oui, ça, c'est très variable, très variable.
Jean-Claude, on parle beaucoup du sentier des Huguenots. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les cimetières familiers protestants et ce fameux sentier des Huguenots ?
Oui, le sentier des Huguenots, c'est donc un sentier de randonnée, de grande randonnée. Qui part du musée du protestantisme de Poët-Laval et qui va jusqu'en Allemagne du Nord, c'est-à-dire qui reprend le chemin qu'empruntaient les protestants s'exilant à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Hein. Donc ce sentier est tracé et on a quand même un peu le projet de faire une petite dérivation très modeste qui se branche sur le sentier des Huguenots et met en valeur quelques cimetières familiaux pour montrer que non seulement il y a eu l'exil, mais que également il y a eu la résistance intérieure, on pourrait dire, la résistance intérieure sous la forme de ces cimetières familiaux.
C'est-à-dire que les gens sont restés sur place malgré
les difficultés. Ils sont restés sur place et ils ont essayé quand même de conserver leur religion et leur tradition. Voilà. Donc, ça peut être un complément utile parce que beaucoup de personnes ignorent totalement l'existence de ces cimetières familiaux. Vous avez des gens qui, français ou européens, qui font du tourisme dans le Diois et qui se disent « Mais c'est quoi ce petit truc végétal ?» Alors, ils s'approchent. Ah ben, c'est un cimetière, mais pourquoi un tout petit truc comme ça ? Des fois, il y a deux tombes. Ils ne comprennent pas. Il faut avoir la connaissance historique de l'époque de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc on peut très bien faire un petit itinéraire qui mette en valeur les cimetières familiaux. Ça pourrait se faire du côté de Valcroissant. Sur la commune de Die, il y a 7 cimetières familiaux. Ça pourrait se faire du côté de la Val d'Aix, où il y en a 14 ou 15. Et raccorder ça au sentier des Huguenots, qui part de Poët-Laval et qui passe par le col de Menet, et qui ensuite monte jusqu'en Allemagne du Nord, où se sont installés les Huguenots français qui s'exilaient. D'où d'ailleurs le jumelage de la ville de Die avec Luisendorf. Créé par des Huguenots français.
Et ça, c'est un projet qui pourrait être mené dans combien de temps à peu près ?
Oh, ça relativement rapidement, ça pourrait être fait sur 2015-2016.
Juste un fléchage.
Oui, un fléchage, un panneau explicatif, peut-être un cimetière remis en état. Voilà, c'est relativement facile à mettre en place.
Vous avez quand même, entre le recensement, le débroussaillage, remettre en état un certain nombre de cimetières, plus ce fléchage d'un circuit de cimetières familiaux en corrélation avec le sentier des Huguenots, ça vous fait du pain sur la planche.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on peut éventuellement renouveler ton appel à bénévoles. Si ce sujet vous intéresse, il vous suffit de contacter ou Jean-Claude au numéro qu'il va vous dire, ou l'association aux coordonnées qu'il va vous dire aussi.
Donc, c'est Jean-Claude Rousseaus. Donc, c'est le téléphone, c'est le 04 75 21 02 00. 04 75 21 02 00. Et on peut m'écrire à Di, au 39 rue de l'Armellerie. Et on vous enverra la documentation, la fiche descriptive, l'histoire des cimetières familiaux.
Et vous ne serez pas inutile dans cette association. Je crois que tu m'as dit que vous avez comme projet, dans l'année 2015, de faire un petit site. Il n'y en a pas encore de site, hein, c'est ça?
Oui, oui. Voilà.
Ce serait pas mal pour...
On a le projet de faire un site. Et puis peut-être aussi d'utiliser Géoportail pour localiser de façon très précise ces cimetières familiaux. Ça, on est en train d'étudier cette question-là.
Bien, merci Jean-Claude, je te remercie d'être venu apporter ces compléments d'information et puis ce petit point sur les cimetières familiaux qui n'est pas inutile de temps
merci.
À autre.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.